Bonjour. Alors, j'ai préparé un petit support, mais je vais parler un peu sur ce support. Je voulais juste compléter un petit peu le contexte, si vous voulez, par le fait que j'ai effectivement travaillé sur l'accès des femmes à l'espace public. Au Maroc, j'ai été en fait en accueil en délégation à l'IRD pendant 3 ans et demi, enfin pendant 3 ans. J'ai resté 3 ans et demi au Maroc et j'ai travaillé donc dans le cadre des études de genre à Rabat et à Casablanca, où on a mené aussi une recherche sur l'état des lieux des études de genre au Maroc, sur lequel il y a beaucoup à dire. Et on est en train de préparer une publication sur cette question-là. Donc, pour une prochaine fois, peut-être, on pourra discuter de ça. Alors, pour introduire un petit peu, effectivement, comme on est dans un congrès sur les... Enfin, dans il y a besoin ? Bref. Alors, comme on est dans des journées qui sont basées sur le genre, on connaît tous évidemment cette question du point de vue situé, et je pense que c'est important toujours de rappeler d'où on parle et pourquoi on parle de ça. Donc très très rapidement, effectivement, la base de mes études, de mes recherches, c'était les jardins publics. Et là, je vous ai mis une petite photo de Nora et sa mère dans un jardin au Caire. Et donc j'ai fait un long travail de recherche sur les jardins publics. Et au cours de ces recherches-là, en fait, j'avais pas au départ du tout d'approche de genre. Moi, je travaillais vraiment dans une approche d'aménagement, d'urbanisme, de géographie urbaine. Et cette approche genrée s'est imposée à moi. Je ne la voulais pas, mais elle s'est imposée à moi, et notamment par la pratique des espaces publics, et en particulier par la pratique des jardins publics, dans lesquels je me suis aperçue très très vite, évidemment, comme toutes les personnes qui se déplacent dans les pays dans lesquels j'étais, donc en Égypte, au Maroc et en Syrie, qu'il y a un usage différencié de l'espace public, qu'on connaît en Europe, mais qui saute davantage aux yeux encore dans les jardins publics en particulier, qui sont des espaces très particuliers, où il se passe plein de choses et où on peut dire que c'est un espace de liberté dans les villes. Et en particulier, on y reviendra parce que tout ce que j'ai observé à l'époque m'a servi par la suite. Et donc, c'était une bonne entrée en matière. Alors, cette organisation et cet usage très différencié des espaces publics dans les villes que j'avais étudiées, en fait, s'explique très simplement, on va dire, par la structure patriarcale des sociétés. On a affaire au sud de la Méditerranée, mais cette structure patriarcale a une structure patriarcale qui est prononcée, contre laquelle beaucoup de choses se passent actuellement, et notamment à l'occasion des soulèvements qui sont passés depuis les années 2009, hein, puisque on peut considérer que les révolutions ont commencé en 2009 avec les mobilisations en Iran. Et donc cette structure patriarcale de la société est à l'origine de la division des espaces, tout simplement parce que elle entraîne des contraintes extrêmement fortes sur le contrôle des femmes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des situations patrilinéagères et par conséquent, la ville et la sexualité ne peuvent pas être dissociées. On a une approche très forte, très sexualisée de la ville, puisque il faut contrôler les femmes pour contrôler la descendance. Et donc, dans ces sociétés étroitement patrilinéaires, le seul moyen de s'assurer de la paternité de la descendance, c'est de contrôler la fécondité. Or, on contrôle la fécondité en sachant
où sont les femmes. Et comme les corps sont très sexualisés, que les femmes sont très sexualisées, eh bien, il y a des éléments qui sont survalorisés, comme la virginité des filles non mariées et l'interdiction des rapports sexuels hors mariage. C'est une organisation qui est complète, qui est organisée et qui structure fortement les sociétés. C'est un fait social, en fait, comme l'avait expliqué il y a déjà longtemps Camille Lacoste du Jardin. Et finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans l'organisation idéale de ces sociétés patriarcales, les femmes sont en quelque sorte dépossédées de leur propre corps et que la sexualité et la virginité sont placées sous contrôle social. Et par conséquent, c'est un fait qui concerne tout le monde. Et donc, elle est sous contrôle de tout le monde. Et du coup, les femmes ont un accès contrôlé, sous contrainte, aux espaces publics. Alors, cette société patriarcale, elle connaît depuis quelques années un certain nombre de brèches qui déstructurent et qui rendent les hommes, en fait, et les femmes aussi, un peu anxieux par rapport à cet exercice, à cet usage de l'espace public qui se fait donc sous contrainte, mais qui se fait aussi grâce à des stratégies de liberté et de libéralisation qui sont très fortes, et notamment, en particulier, les femmes se libèrent petit à petit de la seule existence sociale qui leur était réservée dans une société très patriarcale, qui est la maternité. C'est-à-dire pas d'existence en dehors de la maternité, sauf que là, on est depuis un certain nombre d'années dans un processus d'individualisation qui fait que les femmes existent socialement en dehors des liens du mariage et de la société de plus en plus. Et ça a un impact très important sur non seulement la pratique de la ville, mais aussi sur les structures urbaines qui composent la ville. Et quand on travaille sur l'accès sécurisé aux femmes, des femmes à la ville, sur les villes, sur les safe cities, comme c'est le titre d'un programme de l'ONU Femmes actuellement, hein, avec des projets pilotes à Marrakech et à Rabat, on s'aperçoit à quel point cette individualisation et cet usage de l'espace public par les femmes introduit des brèches dans cette société patriarcale. Alors, ces évolutions donc se font en particulier par des moments de cristallisation très forts qui n'ont pas surpris les femmes de manière générale, comme sur la place Tahrir en Égypte ou en Tunisie ou même les mobilisations au Maroc. Les femmes dans ces pays-là n'ont pas trouvé ça bizarre de s'impliquer et d'être présentes et de dormir la nuit sur la place et de faire des sit-ins, etc. Ceux qui ont été surpris, ce sont ceux qui avaient des stéréotypes très forts sur le monde arabe, considérant que les femmes n'avaient donc acquis aucune existence individuelle. Et en fait, parce que les femmes ont toujours été présentes dans l'espace public, elles ont toujours été présentes dans les espaces publics et elles ont aussi toujours travaillé. Par contre, la question, c'est que la présence, elle est très différenciée d'une femme à une autre. On peut plus dire depuis très longtemps, on n'aurait jamais dû dire la femme. Il faut toujours dire les femmes. Les révolutions ont mis en évidence donc c'est la présence des femmes dans ces espaces publics, mais quand on fait un petit peu l'historique des mouvements féministes dans le monde arabe, on voit bien qu'il émerge un certain certain nombre de mouvements depuis la fin du 19e siècle, qu'on a des figures féministes tout le long de l'histoire. Hein, on rapporte même que Aïcha, la jeune femme du prophète, aurait été la première féministe, que la femme de Ali était aussi une rebelle, peut-être proche des modèles et des figures qu'on nous a présentées hier dans la dernière session, hein, une fille rebelle. Et donc, ça a toujours existé. Pourtant, ce sont toujours des cas un petit peu mis en exergue pour cacher la forêt, finalement, avec une représentation d'un idéal qui reste, dans tous les entretiens qu'on peut faire, qui reste quand même la maternité et la femme au foyer. Donc, il y a un accès au travail qui s'est fait. Alors, il faut revenir peut-être sur une question. C'est là. On a une idée très en Occident. On a une idée très un stéréotype qui est lié en fait à notre histoire coloniale, qui a été très bien développée par Myriam Rodari, qui voudrait que les femmes ont eu accès à l'espace public grâce à leur accès au travail, grâce à leur accès à l'éducation, grâce à la colonisation. Donc il y a une espèce de vision orientaliste comme ça de l'accès des femmes au travail qui ne prend pas en considération tout d'abord le travail non rémunéré, le travail non salarié et tout le côté travail reproductif, puisqu'on est dans un modèle où travail est forcément un travail productif et non reproductif. Et donc, l'idéal du travail, c'est le travail formel salarié. Alors, on a quand même dans la région un taux d'accès au travail qui est le plus bas du monde. On est situé entre 23 et 26% de femmes qui accèdent au marché du travail. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un certain nombre de freins d'accès au travail. J'ai eu l'occasion de faire une enquête pour l'Agence française de développement sur les freins de l'accès des femmes au travail décent. Et un des freins, c'était en particulier le fait qu'il y avait une conciliation extrêmement difficile entre la vie personnelle, la vie familiale et le travail salarié, et que dans l'informel, cette conciliation était un peu plus facile à mettre en œuvre parce qu'il n'y avait pas des horaires, etc. Alors, il y a plein de gens très bien intentionnés qui font des sessions de formation pour aider les femmes à concilier le travail et la vie domestique, auxquelles les hommes ne sont jamais conviés puisque eux n'ont pas de problème de conciliation, forcément. Puisque ça revient entièrement aux femmes. Alors, c'est beaucoup. Alors, j'ai travaillé beaucoup avec donc les ouvrières du textile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les ouvrières du textile me disent, m'ont dit, on a fait à peu près 90 entretiens à Rabat, on en a fait 30 à Casa, et puis on en avait fait une trentaine aussi à Tanger. Et pour elles, le rapport au travail est d'abord un rapport qui est lié à la subsistance. Hein, il faut survivre, il faut travailler pour manger. Et donc, on n'a pas le choix. Là, on n'est pas dans je choisis de travailler ou je choisis de ne pas travailler parce que mon mari va s'occuper de moi. C'est vraiment, pour beaucoup d'entre elles, des chefs de famille. Et on est dans une situation au Maroc, par exemple, où les chefs de famille femmes constitue une part de la population de plus en plus importante, hein, puisqu'on est à peu près à 17% de chefs de foyer femmes au Maroc, ce qui n'est pas un détail dans notamment l'accès aux espaces publics. Parce qu'à partir du moment où vous êtes chef de famille et que vous êtes la seule personne qui subvient aux besoins de la famille, vous avez une légitimité à sortir dans l'espace public pour aller travailler. Et cette légitimité, elle est toujours liée, en fait, avec le domaine domestique, puisque c'est aussi souvent derrière ce domaine domestique que beaucoup de femmes se cachent pour sortir. C'est-à-dire on va sortir toujours avec une bonne raison. Hein. Jacqueline Coutras l'avait déjà montré dans ses travaux sur la banlieue dès 1995. Elle avait montré que beaucoup de femmes ne sortent que parce qu'elles ont une bonne raison d'être dehors. Parce que la place des femmes n'est pas naturellement, entre guillemets, dehors dans toutes ces sociétés. Et par conséquent, si on n'a pas de bonnes raisons, on n'a pas à être dehors. Et s'il nous arrive quelque chose, eh ben, c'est bien fait. C'est juste un rappel à l'ordre social, c'est normal. Et donc, ces ouvrières-là, elles ont cet arrière-plan de la bonne raison qui fait qu'elles vont sortir. Sauf qu'elles utilisent aussi cette bonne raison, y compris pour aller se promener, alors que dans les entretiens, en général, elles ne reconnaissent pas avoir des loisirs. Avoir des loisirs, c'est compliqué. Revendiquer une mobilité pour avoir des loisirs, c'est difficile. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé aussi avec Mina Saïdi Charouz, qui travaille sur l'Iran et qui a fait sa thèse en particulier sur la mobilité des femmes. Et elle, ce qui l'avait beaucoup marqué, c'est que l'accès des femmes au travail en Iran est très faible, hein, parce qu'on est à peu près à 13%, je crois, des femmes qui travaillent en Iran. Mais par contre, dans les mobilités qu'elle avait observées, elle était à peu près 50% de femmes. Donc ça voulait dire que les femmes bougeaient, sortaient, en dehors de la bonne raison du travail. Et dans les entretiens qu'elle avait menés et sur lesquels on avait pas mal travaillé, l'idée, c'était que ces femmes-là revendiquaient de pouvoir se promener dans la ville, de pouvoir sortir pour autre chose que le travail, pour simplement des activités de loisirs. Hein, pour aller au souk, pour aller visiter leur famille, pour aller dans les jardins publics en particulier. Et donc, que cet accès à l'espace public, elle le revendiquait sans bonne raison, si vous voulez. Et donc là, on est vraiment dans une espèce de basculement des modèles sociaux qui font qu'aujourd'hui, on commence à reconnaître qu'on a des loisirs. Mais c'est souvent la pratique qui est plus libre que le discours. Quand on étudie, les pratiques, on fait des entretiens. Donc avec les ouvrières, c'était très remarquable ce fait-là, cette distorsion entre la pratique et le discours. Parce que dans le discours, elles sortaient seulement pour les enfants, pour le travail, pour faire des courses, etc. Donc dans le discours, tout était conforme au modèle. Par contre, quand j'ai pratiqué un peu les cartes mentales, et quand je leur faisais faire des cartes mentales sur leur ville à elles, eh ben, il y avait plein de lieux de loisirs qui sortaient, alors qu'elles ne l'avaient jamais dit dans les entretiens. Mais dans la carte mentale, elles mettaient l'endroit où elles allaient avec leur petite amie. Ah bon, elles ont un petit ami. Jamais, c'était sorti dans l'entretien. Où elles allaient, notamment les femmes à Tanger, elles allaient au bord de la mer juste pour respirer, elles allaient au café, elles allaient juste se balader dans la Médina, elles allaient faire le boulevard, elles allaient... Elles avaient quand même pas mal de loisirs qui sortait sur la carte mentale, alors que ça sortait pas du tout dans le discours. Et quand on fait des parcours, ça on fait beaucoup en géographie urbaine, des parcours commentés avec les personnes avec lesquelles on fait les enquêtes. C'est pareil. L'idée, c'était on va faire le chemin entre la maison et le travail. Et en fait, tout le long du chemin, il y avait plein d'endroits où elles se reposaient, où elles rencontraient les copines, où elles faisaient une pause au café, elles faisaient une pause dans un jardin, elles restaient là. Elles avaient aussi leurs repères dans ce qu'on appelle les laiteries. Hein, c'est des petits, des sortes de de petites cafétérias, de petits cafés. Enfin, on vend tout un tas de choses et puis on peut boire un jus. Voilà, on peut s'arrêter comme ça. Et donc, elles avaient finalement beaucoup de loisirs, mais là encore, on ne le voyait pas, on ne le savait pas, si on s'arrêtait juste à l'entretien. Et donc, ça montre la difficulté à finalement aussi dire j'ai des loisirs. Je suis en train de... Alors là, je vous ai mis aussi une photo. Je ne sais pas si on la voit très bien, parce qu'il y a Bouchra sur cette photo. Elle est là. Elle est un peu sombre. Normalement, on la voit quand même. Elle est là. on le voit là, mais on ne le voit pas là. Je suis désolée. Donc, en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la boutique de couture de Bouchra. Bouchra, c'est une figure très importante chez les ouvrières du textile auprès desquelles on a fait des entretiens à Rabat. Elle a été meneuse d'une grève pour la dignité. Et cette grève pour la dignité, elle l'a menée à partir de 2012. Donc, en fait, dans le sillage des révolutions... Et dans le sillage des mobilisations qui ont eu lieu au Maroc avec le mouvement du 20 février, où elles trouvaient qu'il y avait une distorsion en fait entre les revendications des féministes de classe aisée et ce dont elles avaient besoin elles en tant qu'ouvrières. Et donc elles ont fait la grève pour obtenir leur dignité et pour dire nous aussi. On est mobilisés. Nous aussi, on veut la dignité, on veut l'égalité, mais sur un plan de travail. Après, l'usine a fermé. Et finalement, beaucoup d'entre elles se sont reconverties. Et Bouchra, en fait, elle s'est peu à peu implantée sur le trottoir. Donc, pendant la grève, elle a... Alors que, dans son discours, là encore, c'est pour vous montrer à quel point la pratique... dans le discours est très différente de la pratique réelle de l'espace public. Donc dans son discours, il était hors de question qu'elle sorte et qu'elle soit dans la rue parce que c'était dangereux. Elle avait totalement intériorisé cette question-là, cette idée-là. Par contre, dans la pratique, très vite pendant la grève, elle a fait un étal où elle vendait des pommes de terre et des oignons. Et puis, c'était juste avec des cajots. Elle était juste par terre. Et puis, elle avait amené ensuite sa machine à coudre. Et petit à petit, elle s'est implantée physiquement dans le trottoir. C'est-à-dire, vous voyez là, elle a cimenté ici, dans le trottoir, des poteaux en fer. Et puis, elle a petit à petit mis une bâche pour se protéger du froid, de la pluie, etc. Pour laisser aussi sa machine à coudre quand elle va en pause, quand elle part le midi, hein, elle ne la laisse pas la nuit. Et petit à petit, elle installe sa boutique. Et je ne serais pas étonnée dans quelques mois, si je retourne la voir, je ne serais pas étonnée de voir que c'est devenu du bois ou qu'elle a mis des parpaings. C'est-à-dire, petit à petit, elle cimente son intégration dans la rue et elle grappille son droit au trottoir, j'allais dire, sans déformer cette question du trottoir. Mais elle, petit à petit, elle grignote son droit à être dehors. Ça, je vais passer. Je pense qu'on va en reparler tout à l'heure. Mais tout ça, ça se fait dans un contexte plus large où finalement, on a des évolutions du droit positif qui vont vers plus d'égalité. On est dans un contexte international où la question du genre est une question qui s'impose petit à petit et que les gouvernants donne des gages aux organisations internationales, mais donne des gages aussi aux mouvements de protestation à l'intérieur du pays, parce qu'il faut, bien être conscient que cette question du genre, elle n'est pas complètement importée. Les revendications pour l'égalité sont bien locales, bien réelles, issues des populations elles-mêmes. Et donc, du coup, il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions, mais on en avait parlé de façon très importante dans un colloque qu'on a fait à la suite des révolutions, qui a donné ce... Je fais mon petit coup de pub. Qui a donné ce bouquin où on avait bien pointé justement une distorsion très très importante entre le droit et la pratique du droit, l'application du droit. Il y a quelque chose de très très important, de très différent entre les gages qu'on peut donner au niveau juridique et puis en fait la réalité. Mais le fait est qu'il y a une revendication très forte. Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, les femmes ont gagné leur droit à la ville par la mobilité, parce que tout simplement, quand on marche dans la ville, on doit marcher d'un pas décidé, parce qu'on a quelque chose à faire. Et donc, c'est la mobilité qui a permis... De gagner le droit à la ville, c'est ce que dit aussi Mina pour l'Iran, avec cette difficulté que la mobilité, elle doit être contrôlée, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, pour contrôler la sexualité. Parce que la mobilité est source d'angoisse vis-à-vis d'une potentielle sexualité en dehors de la maison, du mariage, etc. Donc il y a un soupçon toujours sur cette mobilité, mais malgré ça, il y a un soupçon aussi sur le fait de rester dans la ville, d'occuper l'espace. Là, on voit très bien entre les cafés et la mobilité. Alors évidemment, ces deux photos qui sont mises là à dessein, hein, je manipule totalement les images, mais on voit bien que il y a les hommes qui occupent l'espace. Et puis, les femmes qui passent. Ce qui est complètement inverse dans les jardins. C'est-à-dire que dans les jardins, les femmes restent, elles s'assoient, elles prennent le temps, alors que, les hommes le font aussi, mais dans la ville, elles ont moins l'occasion de le faire. Alors, il y a une évolution qui est extrêmement différenciée selon donc, l'âge, la classe sociale, le statut matrimonial et la maternité. Quand on travaille sur ces questions d'accès aux espaces publics par les femmes, on ne peut pas, là encore, parler d'un ensemble de femmes. C'est extrêmement différent selon l'âge. Et là, on est dans un séminaire qui parle en particulier de la jeunesse. Alors, si les évolutions viennent beaucoup par la jeunesse féminine dans ces pays-là, elle est toujours... contraintes par des traditions très fortes et notamment par le contrôle de leur sexualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais par contre, c'est pas ouvertement. J'avais fait un article sur la géographie amoureuse au Caire que j'avais appelé « Faire sans le dire ». Et on est vraiment toujours dans cet espace-là où on peut faire plein de choses, mais il ne faut pas les dire. Et encore une fois, ça se lit dans les discours. Et les discours sont toujours moins libres ou libérés que les pratiques, en fait. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant à voir. Donc, on a une nécessité absolument impossible à laisser tomber de cette approche intersectionnelle. Il faut absolument toujours faire une différence entre les femmes, puisqu'une femme d'un milieu social très défavorisé n'aura pas du tout la même approche de l'espace public qu'une femme d'un milieu moyen, populaire ou d'un milieu très aisé. Et même chose pour si on a des enfants, si on n'en a pas, si on est marié, si on n'est pas marié. Donc ça, c'est très, très différent. Ce que j'avais trouvé intéressant sur la question de la mobilité et donc dans les modes d'accès aux espaces publics, c'est que justement, d'un point de vue d'aménageur ou d'urbaniste, il y a des espaces qui figent ou qui ne figent pas ou qui aident à l'évolution des pratiques. Alors, en particulier, le tramway à Rabat a constitué une nouvelle forme, un nouvel espace public. Et ça, c'était vraiment intéressant de le voir. Le tramway a été inauguré en 2011 à Rabat, en mai 2011. Et ils ont choisi de faire des arrêts de tramway qui sont ouverts. Donc, il n'y a pas de séparation entre l'arrêt et la ville. Ce qui fait que il y a beaucoup de personnes, et notamment des femmes, qui prennent place dans l'espace public aux arrêts de tram. Ce qui est extrêmement pratique, puisque quand vous êtes à l'arrêt d'un tram, vous êtes en train d'attendre le tram. Sauf que non, vous pouvez rester toute la journée à l'arrêt de tram. Tous les gens qui vont passer vont penser à un moment ou à un autre que soit vous attendez quelqu'un pour prendre le tram avec vous, soit que vous attendez le tram. Et en fait, les arrêts de tram... Les arrêts de tram à Rabat ont été une espèce de cheval de Troie ou sont une espèce de cheval de Troie de la conquête de l'espace public par les femmes et en particulier par les jeunes femmes quand elles sortent du lycée qui ont fait de ces arrêts de tram des espaces de rencontre, des espaces de loisirs aussi puisque on y va, on reste hyper tard, même parfois, la nuit, parce que souvent la nuit, c'est les seuls espaces qui sont éclairés dans certains quartiers. Quand vous allez au bout de la ligne à Salé, vous voyez que le seul espace où il y a de la lumière, en hiver, quand il pleut, c'est l'arrêt du tramway. Et donc, si vous y êtes... Vous avez toujours ce prétexte que vous attendez le tram. Et vous pouvez aussi rencontrer, c'est aussi un lieu de rencontre amoureux, l'arrêt de tram. Comme par hasard, vous allez rencontrer votre petit copain à l'arrêt de tram qui, lui aussi, à cette heure-là, va prendre le tram. Quand même un hasard heureux. Et donc c'est, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont développées autour de ces arrêts de tram. Chose qui ne s'est pas du tout produite à Casa, par exemple, dont le tramway a été inauguré peu de temps après, à peu près un an après, je crois que c'est décembre 2013. Et où, en fait, le choix a été fait par les aménageurs de rentrer dans l'arrêt de tram avec le ticket. Donc, vous devez rentrer, vous devez mettre payé, en fait, pour être dans l'arrêt de tram. Donc, ça n'a pas joué du tout le même rôle par rapport à l'accès aux espaces publics entre le tramway à Rabat et le tramway à Casablanca. Donc, il n'y a pas eu du tout la même dynamique qui s'est mise en place. Tout ça pour dire que, pour les aménageurs, cette approche de genre, elle est aussi extrêmement importante parce qu'elle peut figer ou faire évoluer les pratiques de l'espace public. Si on regarde tout simplement... les espaces publics urbains sont des productions sociales. Ils reflètent l'organisation sociale des sociétés. Et si vous regardez les toilettes publiques ou les toilettes des aires d'autoroute, c'est toujours très intéressant de regarder les toilettes, vous vous apercevez que on a fait des grands progrès, c'est-à-dire on a aménagé ces toilettes, mais on a toujours mis les structures pour changer les petits-enfants, hein, pour changer les couches des petits-enfants, on les a toujours mis dans les toilettes des femmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère, les urbanistes, les architectes considèrent tous que c'est du rôle des femmes de changer leurs enfants. Qu'est-ce que fait un jeune papa qui prend l'autoroute avec son enfant et qui a besoin de le changer ? Qu'est-ce que font les parents divorcés ? Qu'est-ce que font des parents qui... la maman veut aller faire le plein d'essence et le papa veut aller changer son enfant ? Comment est-ce qu'on fait évoluer les espaces publics en fonction des évolutions des sociétés. Et donc ça sont des éléments qui sont de plus en plus pris en considération. Mais en réalité, moi, j'ai pas mal eu l'occasion d'avoir des contacts avec les aménageurs. On reste encore très largement dans une conception neutre de l'usager de l'espace public. Donc, malgré le fait qu'on reconnaisse que les hommes et les femmes n'ont pas un usage de l'espace public qui soit le même, les réalisations prennent rarement en considération ces différences. Et en particulier, le citadin neutre pour les toilettes n'est pas considéré. On ne fait pas de citadin neutre. Là, pour le coup, c'est les femmes. Donc on a des organisations comme ça, urbaines, qui reflètent les sociétés et qui peuvent parfois bloquer l'évolution des sociétés. Alors, un autre élément qui prend en considération, un autre élément dans la mobilité, qui prend en considération l'évolution, ce sont les transports. Alors, vous savez peut-être pas, mais dans le monde, il y a à peu près 25 réseaux séparés de transports en commun, séparés hommes-femmes. Alors, il y en a à Mexico, il y en a au Caire, c'est un des plus connus, c'est la photo que je vous ai mise là. En Inde, au Japon, alors soit des réseaux suburbains de trains, soit des métros avec des voitures séparées, qui sont les voitures pour femmes, qui sont interdites aux hommes. En fait, quand on regarde ces réseaux à Téhéran, bien sûr, c'est séparé aussi. Enfin, bien sûr, non, pas bien sûr, c'est séparé. Et quand on regarde l'évolution de ces séparations et qu'on se dit mais qui a décidé de faire des voitures séparées, on s'aperçoit que en fait les féministes des pays n'ont jamais réclamé ces voitures séparées, jamais. À aucun moment, même en dénonçant le harcèlement, les attouchements, les frotteurs qui se trouvent dans les métros en raison de la congestion, etc., à aucun moment, dans aucun pays, les femmes n'ont réclamé de voitures séparées. On leur a imposé sur la thématique de « vous allez être mieux, on va lutter contre le harcèlement comme ça ». Mais en réalité, ce qu'on voit quand on travaille sur les archives, et c'était en particulier le cas, ça nous a beaucoup ouvert les yeux, j'ai travaillé avec Marion Tillous sur cette question-là, à New York en particulier, la séparation homme-femme en 1919, hein, c'était au début du métro, elle a été demandée par les ladies qui voulaient éduquer les femmes du peuple à ne pas être trop proches des ouvriers, à ne pas faire un peu de gringue aux ouvriers qui prenaient le métro. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit une deuxième couche se mettre en place, et qui est une couche sociale d'organisation de l'espace. C'est-à-dire que le harcèlement est souvent un prétexte pour séparer les bons citadins des mauvais. Et les mauvais, c'est des stéréotypes socialement marqués, puisque, par exemple, au Japon, mais c'est aussi le cas en Égypte, où c'était le cas aussi donc à New York, le type d'harceleur ou de frotteur archétypal, en fait, c'est un jeune qui a les mains sales, les ongles noirs, qui sent la transpiration, qui n'est pas bien habillé, etc. Donc, il a tout de l'ouvrier, en fait. On décrit un ouvrier. Et donc, il faut séparer les jeunes filles qui vont à l'université, qui sont bien propres sur elles, des ouvriers. On a une deuxième couche sociale qui se met une question de ségrégation sociale qui s'appuie sur le harcèlement, sur la question de genre. Et donc, c'est pour ça que l'approche intersectionnelle est toujours aussi extrêmement importante, puisque ces différents éléments se mettent en place. Deuxième chose sur la séparation, après, je m'arrêterai, je pense que j'aurais parlé plus que mon temps. Deuxième élément, c'est les horaires. Je vous parlais tout à l'heure du prétexte pour l'accès aux espaces publics des femmes. Au Caire, au départ, les horaires, c'était les heures de pointe. Ce qui correspond aux heures de congestion, mais ce qui correspond aussi aux heures où on va travailler. En dehors des heures où on va travailler, il n'y avait pas de voitures séparées. Même chose pour Mexico. La séparation a été introduite en 1977 à Mexico. Il n'y a pas d'heure, il n'y avait pas de séparation entre les heures de pointe. Ça veut dire quoi si on lit entre les lignes ? Ça veut dire que si vous allez travailler, vous avez le droit de voyager sans harcèlement. Si vous allez vous balader, bah tant pis. Donc il y a une inclusion de l'espace dans l'espace public liée à un rôle toujours lié à la famille, à la maternité, au fait de travailler ou de participer au développement économique du pays. En dehors de ces temps-là, l'accès à l'espace public n'est pas reconnu pour les femmes. En tout cas, si elles y vont, c'est à leur risque et péril. Ça, je n'aurai pas le temps. Et donc, en conclusion, deux petits mots, deux petites pistes de conclusion. C'est que, en fait, on s'aperçoit dans toutes ces sociétés que la place des femmes, elle est tellement cruciale pour le maintien d'un ordre social patriarcal qu'elle est naturalisée et déifiée. C'est-à-dire, les femmes sont vulnérables par nature. Et par nature, elles ont été créées par Dieu plus vulnérables que les hommes. Et donc, si c'est Dieu et si c'est la nature qui a créé les femmes plus vulnérables, c'est normal, c'est leur place normale, donc ça ne doit pas bouger. Mais en fait, on s'aperçoit que les transgressions sont si nombreuses, si importantes, si développées, qu'on ne pourra pas empêcher une évolution qui est en cours et qui a largement écorné ce système patriarcal qui aujourd'hui est un petit peu sur la défensive et en déshérence. Et cette évolution, elle se fait par les femmes, mais par les hommes et par les femmes ensemble. Et c'est pour ça que je vous ai mis plein de photos d'amoureux dans l'espace public, parce que c'est par là que ça se fait, par la constitution des couples d'individus. Voilà, je vous remercie.